Libre Radio, la radio qui prend l'air et qui fait le beau temps. www.libradio.org.
Alors, nous sommes donc toujours dans les conditions du direct depuis le bain des Paquis ici à Genève. À l'occasion du trentenaire de ces bains, nous avons reçu tout à l'heure Jean-Pierre Balmer, qui est un des membres fondateurs de cette association de citoyens, dont on a vu quelles étaient les utopies concrètes et opérationnelles qui ont toujours cours 30 ans après ce projet. Ce soir, nous recevrons également les cycloprojectionnistes de Cinéma Sud, hein, qui opèrent à l'occasion de ces 30 ans des projections dont la marque grise est n'influe en rien sur le climat, puisque c'est de l'énergie solaire qui est utilisée pour opérer la projection, et que le mouvement de la troupe s'opère par vélo par des cyclistes qui sont également des projectionnistes. Mais maintenant, nous recevons Philippe. Alors, on se reçoit en fait par contumace par téléphone, puisque tu es à Marseille, au CIRA de Marseille. Alors, en quelques mots, le CIRA, on le connaît à Genève parce que ça a été créé à Genève il y a de cela quelques années, puis celui-ci s'est déplacé à Lausanne, et si j'ai bien compris, le CIRA de Marseille, lui, a été créé dans les années 60, en 65, si ma mémoire est bonne, un petit peu sur le calque du CIRA de Lausanne.
Ouais, alors on peut dire que le CIRA de Lausanne, c'est le grand frère du CIRA de Marseille. Mmh. Donc il y avait le CIRA de Lausanne exactement, c'était à Genève, Lausanne puis Genève puis Lausanne.
Voilà.
Et c'est 57, ça avait été créé par les militants de Genève, là, dont il devait y avoir André Bossiguer, et puis un anarchiste italien qui vivait en exil parce qu'il refusait l'armée, Pietro Ferrua. Mmh. La compagne qui s'en occupe actuellement, Marianne Henkel, est arrivée quelques années plus tard. Mmh. Et dès les années 60, des liens forts avec un militant marseillais qui s'appelait René Bianco, un historien qui fréquentait donc le CIRA de Genève et Lausanne, je ne sais plus où il était exactement à cette époque-là, et on s'est aperçu qu'il manquait beaucoup de choses dans les archives de Lausanne et qui étaient en double à Marseille. Donc dans un premier temps, le CIRA de Marseille était une annexe du CIRA de Lausanne.
Oui.
Et il y avait des collections. Dès qu'on trouvait un original, il était envoyé en Suisse.
D'accord.
Et alors, à Marseille, au début, il n'y avait que des doublons.
D'accord. Ok. Alors, Philippe, maintenant, on va pouvoir dévoiler ce que désigne l'acronyme CIRA. C'est donc le Centre international de recherche sur l'anarchisme.
Et oui, tout à fait.
Voilà.
Pardon. Et donc, c'est un sigle que d'autres peuvent utiliser, parce que, bon, il y a un CIRA en Suisse, il y en a un à Marseille. Mais dans le temps, il y en a eu un au Brésil, quand Pietro Ferrua était en exil là-bas. Mmh. Et puis, il y en a un qui existe au Japon, et qui, depuis longtemps, et qui existe toujours, avec lequel on a des liens. Bon, c'est un peu difficile de communiquer parce qu'il parle japonais et pas nous. Mais bon, on envoie quelques documents. Et puis, depuis 3 ou 4 ans, il y en a un qui s'est fondé à Limoges. Donc, il est tout jeune et en cours de construction.
Ok. Alors, dis-moi, quels sont les dessins, les enjeux, les postures du CIRA à Marseille et des CIRA en général?
Le CIRA, son but, c'est de conserver tout ce qui a un rapport avec l'anarchisme sous quelque forme que ce soit. Donc ce sont des livres, beaucoup de journaux, des brochures, des affiches et des documents qui ont été faits par les militants, mais aussi des documents qui ont été réalisé par des gens qui n'étaient pas forcément favorables à l'anarchisme ou qui l'ont été à une petite période de leur vie.
Ok. Et de quelle manière? Alors, quand tu dis documents, ça veut dire que ça peut être également des documents sonores, des documents vidéo, tout type de documents?
Oui. Alors, on a aussi... à l'époque, c'était des cassettes. On les a numérisées quasiment toutes. Et puis, on a pas mal de vidéos aussi, ouais.
D'accord. Et pour nous faire une idée, ça, à Marseille, vous avez quel volume de documents combien de documents sont-ils recensés chez vous?
Alors ça, c'est des chiffres qui remontent à déjà quelques années, mais on avait 7500 bouquins, dont 5400 français, donc ça serait la plus grande bibliothèque anarchiste au monde, il ne faut pas avoir peur de le dire.
Ben oui.
Parce que celle en Suisse, vu la place, il y a beaucoup de langues Et il y en a sûrement un peu moins en français, mais bon, ils en ont beaucoup plus dans d'autres langues. Mmh. Alors nous sur Marseille, c'est trois. Bon, ce qu'il y a d'international, c'est français, castillan et italien surtout.
Ah, d'accord. Les langues étrangères, c'est plutôt celle-là. Y a-t-il quand même, avez-vous quelques documents en langue un petit peu exotiques, j'ai envie de dire?
Puisque l'anarchisme est quasiment mondial, il y a quelques zones blanches où il n'est pas arrivé, mais d'exotique, on va voir quoi, du yiddish, ou l'espéranto, le japonais, du chinois, voilà, et puis différentes langues européennes peut-être plus rares. Ouais.
Comment est-ce que vous trouvez les documents? Est-ce que c'est une équipe du CIRA qui les recense, qui les trouve, qui les recherche? Est-ce qu'il y a également des dons? Des gens vous amènent des livres? Des gens vous informent que des documents existent et qu'ils seraient à récupérer? Comment cela se passe-t-il?
Alors, oui, effectivement, il y a beaucoup de dons. Donc, des militants qui ont souvent un âge avancé se disent « mes descendants ne vont rien en faire, donc on va les donner au CIRA et ça sera à l'abri ». En ce qui concerne les livres, on fait un recensement de tout ce qui a un rapport avec l'anarchisme de près ou de loin dans l'édition et on les demande systématiquement aux éditeurs. C'est pour ça qu'on a énormément de bouquins en français, parce que à peu près la moitié des demandes sont satisfaites. Hein. Les éditeurs voient qu'il y a un intérêt que ça soit conservé quelque part et nous les envoient.
D'accord.
Et d'autant plus qu'on a une petite feuille d'info mensuelle dans laquelle on parle des livres et en quelques lignes.
D'accord. Ça veut dire que, par exemple, le Monde Libertaire ou le Combat Syndicaliste, enfin des Alternatives Libertaires, vous envoient des journaux pour que vous les conserviez?
Alors les journaux, oui, en général, là, c'est les éditeurs des journaux nous font des abonnements gracieux parce qu'eux aussi voient l'intérêt de la conservation et puis même surtout de la conservation papier, hein, parce que certains centres de documentation pensent qu'il faut tout numériser et que ça soit le CIRA, Lausanne ou nous-mêmes, on pense qu'il faut garder les traces papier, hein, parce qu'on ne sait pas ce que ça va devenir tous ces documents numériques.
Bien sûr. Et alors ensuite, vous, comme tu l'as dit, vous recensez ça dans un catalogue avec en plus un bulletin mensuel ou un bulletin régulier?
Alors bon, on a un site internet, le catalogue est en ligne, donc on peut y voir tous les bouquins, les brochures, essentiellement les journaux. Il faut nous envoyer un mail pour savoir quels documents on a et puis on peut toujours faire des photos de ces journaux. Et puis le petit bulletin mensuel, c'est une sélection. Et par contre, tous les ans, là, on est en train de réaliser celle de 2016. On réalise une bibliographie annuelle des bouquins parus en français.
D'accord. Et dis-moi, alors comment est-ce que vous recensez ces documents? Donc c'est un peu comme une bibliothèque, vous les recensez selon le titre, l'auteur, toutes ces choses-là, les langues. Et puis la question qui va avec, c'est comment est-ce que vous les conservez? Vous mettez les documents papier d'un côté et vous les numérisez pour qu'ils soient accessibles, ou de quelle manière est-ce que vous procédez?
Non, là il y a vraiment, bon, on a la chance depuis 2012 d'avoir un grand local en plein centre de Marseille, dont on est propriétaire, parce que le gros problème des centres tels que le nôtre, c'est où conserver tous ces documents, hein. Mmh. Parce que, bon, on va le rappeler, les anarchistes, ils publient énormément et donc ça fait des masses colossales de documents. Et dans l'histoire des CIRA, on nous prête un local, mais après on nous l'enlève, donc qu'est-ce qu'on fait de ces archives? Elles risquent de se perdre. Donc là, ce local fait 100 mètres carrés. Il y a une grande partie, c'est la bibliothèque. Donc les bouquins, bon, ils sont pas classés comme dans les bibliothèques municipales classiques. Hein. C'est par ordre d'arrivée. Et puis après, pour les trouver, il faut utiliser les fichiers, hein, par auteur, par titre ou par sujet. Et puis, donc, on peut lire ces documents sur place, ou les adhérents de l'association peuvent les emprunter.
D'accord. Et alors justement, qui sont les gens qui viennent a priori consulter sur place? Est-ce que ce sont plutôt des personnes qui sont intéressées par l'anarchisme, qui sont des entre guillemets militants, ou alors à l'inverse des gens qui s'en méfient, qui veulent s'en informer justement? Qui vient?
Alors il y a un peu tout. On va avoir évidemment des étudiants, des chercheurs qui font une recherche. Des gens qui écrivent un bouquin, donc qui vont être à la recherche de vieux articles, et puis on a les militants qui qui passent, des petits jeunes qui sont au lycée, qui veulent en savoir plus, et puis de temps en temps, des curieux qui n'ont absolument rien à voir, qui voient l'enseigne, parce que bon, comme on est au rez-de-chaussée à deux pas de la Canebière à Marseille, donc c'est vraiment en plein centre, il arrive qu'on ait des, entre guillemets, touristes qui passent. Alors nous, on n'hésite pas à sortir sur le trottoir, leur dire, les faire rentrer là, et les faire visiter pour leur expliquer un peu ce que c'est que l'anarchisme, qu'on n'a pas tous des couteaux entre les dents et des bombes à la main.
Voilà, alors justement, voilà, quel est le retour ou les relais qui parlent de vous, et de quelle manière est-ce qu'ils en parlent ? Est-ce qu'il y a encore ces vieilles lunes, ces idées reçues, qui, voilà, de violence, de bombes, de toutes ces choses-là ? Ou est-ce que les choses, selon toi, évoluent peu à peu ?
Ouais, moi je pense qu'actuellement ça évolue pas mal, parce que c'est sûr, ça a commencé avec la chute du mur. Bon, on a vu le communisme réel, ce qu'il était. Il y a eu un regain d'intérêt pour les idées anarches dans les grands mouvements de 95. Et puis bon, il y a quand même beaucoup de gens qui s'y intéressent. L'édition, elle est florissante, parce que c'est pas seulement les éditeurs libertaires qui publient, c'est les éditeurs entre guillemets standards qui ont des livres anarches à leur catalogue, quoi. Et alors après, tout le monde ne va pas être anarchiste, se lancer dans le militantisme, mais je pense qu'on est vu sous un œil plutôt sympathique maintenant.
D'accord. Est-ce que vous êtes sollicité, et si c'est le cas, par qui ? Quand je dis sollicité, c'est est-ce que des gens justement vous demandent de venir animer une conférence, proposer une table d'information, une table de presse ou des choses comme ça ? Je pense à...
Alors les tables de presse, on en fait pas mal dans les salons du livre libertaire. Mm-hmm. On est plutôt entre nous, bon, même s'il y a du public extérieur qui vient. Mais on aime bien aller faire des tables de presse dans le milieu associatif, justement. Là, dans la région marseillaise, on est copains avec des associations qui seraient proches des écolos et qui n'hésitent pas à nous appeler, qui connaissent pas bien l'anarchisme et qui trouvent que les bouquins qu'on présente sont très sympas. Et on a des très très bons rapports avec eux. Et puis, alors au niveau conférence, oui, on a eu... ça arrive pas tous les jours, mais l'an passé... C'est une médiathèque municipale qui nous a demandé d'organiser une conférence où on présenterait l'histoire d'anarchisme d'hier et aujourd'hui. Et on y a été à trois membres du CIRA. On a fait un tour d'horizon, devant une cinquantaine de personnes qui ont posé des questions judicieuses et qui étaient vraiment intéressées par ce qu'on a fait, quoi.
D'accord. Dis-moi, qui compose l'équipe du CIRA à Marseille ? Combien êtes-vous et de quelle manière est-ce que vous vous impliquez à l'intérieur en termes de volume et de différents rôles ?
Ouais, alors le CIRA, c'est une association, en France, ça s'appelle Loi 1901, donc c'est en principe ouvert à tout le monde. On ne vit d'aucune subvention, donc c'est tous les sous, c'est les adhérents qui les donnent. Donc on a plus de 200 adhérents essentiellement en France, et sur place, on est sur place et à distance, puisqu'on fait pas mal de travail informatique, on est un noyau d'une dizaine, quoi. Donc il y a ceux qui vont ouvrir le local, qui vont tenir les permanences, ceux qui aiment bien cataloguer, ceux qui aiment bien organiser une conférence, etc.
Ouais. Ça veut dire que... Et combien de personnes êtes-vous au total, disons ?
De noyaux militants, on va être une dizaine, quoi.
Ouais, quand même, d'accord. Donc c'est quand même un beau groupe. Et ça fait vite de nombreuses heures de travail.
Oui, bien sûr. Parce que c'est gérer des archives, il y a tout un aspect professionnel, entre guillemets, quoi, qu'il faut apprendre. Hein, c'est cataloguer, classer, c'est des règles qui sont internationales, qui se pratiquent dans toutes les bibliothèques et les centres d'archives du monde, et bon, il faut plus ou moins les connaître, quoi.
Voilà, alors c'était le sens de ma question qui allait venir, c'était l'auto-formation. Comment est-ce que vous faites justement pour arriver à avoir toutes ces compétences pour pouvoir classifier, identifier les bons documents, les conserver de la bonne manière, toutes ces choses-là?
Alors oui, il y a pas mal d'auto-formation, puis on a la chance d'avoir, moi par exemple, je suis bibliothécaire de formation, donc savoir où trouver les documents, ça c'est pas trop difficile. Et puis on a un autre copain, un jeune qui a vécu au Canada et qui a aussi une formation de bibliothécaire. D'accord. Donc déjà on peut expliquer les règles de base aux copains Et puis après, ceux qui sont intéressés s'y mettent. Hein. C'est un peu chacun fait les tâches qui lui plaisent le plus, quoi.
Ok. Écoute, moi j'ai ici, et j'aimerais que tu me le confirmes ou que tu me démentes. Donc le Cyral à Marseille, c'est au 50 rue Consola.
Oui.
Le site web, c'est cyra.marseille.free.fr.
Oui.
Donc ça, c'est toujours juste. Et le courriel, c'est cyra.marseille.free.fr.
Non, c'est le courriel, c'est cyra.marseille@gmail.com.
Ah, pardon. D'accord, cyra.marseille@gmail.com. Ok. Ouais. Alors, je te demande ça parce qu'effectivement, j'aurais envie de te dire de quoi avez-vous besoin au Cyra à Marseille en ce moment. Et puis ensuite, on va arriver justement à la campagne que vous êtes en train de lancer.
Ouais. Alors, juste un petit retour en arrière. Oui. On a oublié de parler de la FICEDL. Donc, c'est la Fédération internationale des centres d'études et de documentation libertaire.
Oui.
Qui regroupe les associations genre CIRA dans le monde entier. Mmh. Alors, tout le monde ne s'appelle pas CIRA, mais on a des centres de documentation en Amérique du Sud, beaucoup en Italie, je ne sais pas pourquoi, mais l'Italie, ça doit être le pays où il y a le plus de centres de notre genre. Mmh. Peut-être parce que c'est un pays décentralisé, donc chaque région avait sa bibliothèque, ses archives. Et donc, on se réunit tous les deux ans c'est surtout rencontre entre individus, mais on essaye de coordonner, d'aller vers un site web en commun, un catalogue en commun. Alors, par rapport, pour revenir à ce que tu me dis, de quoi a-t-on besoin? Donc, on a ouvert ce local en 2011, 100 mètres carrés, on a construit une mezzanine d'une vingtaine de mètres carrés et ça déborde de partout. Donc on avait besoin de s'agrandir et bon, grâce à des dons on a réussi à obtenir un local de 70 mètres carrés qui se trouve à peine à 100 mètres et ça servirait pour mettre tous les documents en attente de tri et tout ce qui est le moins consulté et qu'on irait chercher à la demande. Donc ce local a pu être acheté grâce à des dons généreux, mais maintenant il faut le remettre en état. Et donc l'appel à soutien, c'est pour financer les travaux de cette annexe.
D'accord. Et comment les personnes peuvent opérer des dons?
Pardon?
Comment les personnes peuvent soutenir et donc opérer des dons? Est-ce qu'on envoie de l'argent, du cash comme ça ou comment ça se passe?
Oui, le mieux c'est de nous envoyer un mail, d'écrire un mail et puis on expliquera les modalités.
D'accord. Ouais. Donc voilà, à l'adresse
mail. Bon, après, si c'est de France, oui, c'est des chèques, mais de Suisse, le mieux c'est les virements bancaires, donc on donnera les coordonnées par mail.
D'accord, je te remercie beaucoup. Camille, parmi nous, a une question pour toi.
Oui, bonjour. J'avais une petite question, c'était sur cette rénovation. C'était sur cette rénovation-là. C'était pour savoir si vous aviez également besoin d'huile de coude. Et, bon, alors peut-être pas des gens de Genève qui descendent.
J'entends pas du tout.
Pardon, excusez-moi. Est-ce que là, ça va mieux?
Ouais, un peu mieux.
Est-ce que vous avez besoin de main-d'œuvre en plus de... Pardon, excusez-moi. Est-ce que vous avez besoin de main-d'œuvre en plus de dons pour cette rénovation? De gens qui viendraient vous aider sur Marseille?
Pour les travaux?
Oui, exactement, oui.
Ou pour les tâches quotidiennes?
Un peu des deux, d'ailleurs.
Non, les tâches quotidiennes, bon, après, toutes les personnes qui sont intéressées sont les bienvenues, hein, bien sûr. Hein, on est une équipe, il y a toujours des choses à faire. Et après, les plans pour l'aménagement de l'annexe, pour l'instant, on a une dalle à faire, on fait appel à un professionnel. Et après, tout l'aménagement sera fait avec des copains, mais effectivement, on peut toute personne qui veut nous donner un coup de main et qui est sur la région, qui veut venir à Marseille, peut venir.
D'accord. Dis-moi,
c'est de nous écrire avant pour dire quand les travaux commenceront et tout ça.
Oui, alors nous, on tient à être au courant, en tout cas, pour tout ça. Dis-moi, comment l'ont pris les voisins? Est-ce que vous avez plutôt des voisins adjuvants, favorisants et aidants, solidaires? Ou est-ce qu'il y a quand même des moments où c'est un petit peu délicat et vous avez des gens qui sont plutôt des écueils? Je parle des gens de la société civile, mais également des différentes institutions. Est-ce qu'on vous regarde encore avec un œil suspect en disant « Mais qui sont ces gens-là? On n'en veut pas, chez nous. » Ou est-ce que vous trouvez plutôt des alliés?
Des alliés, à une époque on acceptait de recevoir des subventions pour différentes choses. À une époque la mairie de Marseille était plutôt favorable, nous donnait un petit financement pour payer le loyer quand on était encore locataire. Et puis un jour, au conseil municipal, ils se sont dit qu'est-ce que c'est que ces anarchistes, on a pu leur donner un rond.
Ouais.
Donc depuis, on se débrouille tout seul. Donc c'est l'autofinancement, l'association, l'appel à la solidarité. Là, par exemple, pour cet appel pour les travaux de l'annexe, ça a déjà commencé à avoir des réponses favorables. Après, dans la rue, c'est plutôt de la curiosité que de l'agressivité. Hein. Nous, on a eu de la chance de ne pas avoir d'attaque, parce que sur Marseille, il y a quand même des groupes d'extrême droite, style Action française, qui sont assez nocifs.
Mmh.
Mais non, pour l'instant, on a eu aucun ennui, ni avec le voisinage, ni avec des groupes hostiles. Quoi.
D'accord. Donc, a priori, selon toi, cette campagne devrait rencontrer un bon succès et dans des délais raisonnables?
Pardon, j'ai pas entendu.
Oui, pardon. Je te demandais si, selon toi, la campagne qui a cours maintenant allait être couronnée de succès et dans des délais raisonnables. Enfin, comment tu le voyais? Quel était ton pronostic?
Bon, là ça a bien démarré. Après, bon, oui, on va être optimiste. On va dire qu'on va obtenir les fonds nécessaires. Ouais.
D'accord. En tout cas, nous, de notre côté, on va essayer évidemment de relayer un maximum ici parmi les compagnons et les compagnes à Genève et Lausanne. Et j'espère qu'il y aura des bons retours de ce côté-là. A priori, une fois que la somme serait récoltée, quelles seraient ensuite les actions à mener pour vous?
Après, c'est faire connaître nos actions. On organise tous les mois un débat, donc ça, plus il y a de pubs pour ces débats, mieux c'est. C'est relayer nos informations. Après, cette feuille d'infos qu'on envoie, parce que je t'ai parlé tout à l'heure de 200 adhérents, mais nos correspondants, on a plus de 1200 contacts qui reçoivent régulièrement nos infos.
Mmh.
Et qui demandent pas à se désabonner, donc ça veut dire que ça les intéresse. Donc plus on en a, mieux c'est, parce que plus on a d'échanges et plus on a de contacts à droite et à gauche, mieux c'est, quoi.
Bien sûr. Et j'imagine que vous gardez toujours en contact avec les différents CIRA, et notamment, j'imagine, Lausanne et puis Limoges, puisque, comme tu l'as dit, à Limoges, un CIRA a été initié.
Oui, oui. Comme je te l'ai dit, la FICED, c'est
oui.
Ce qui permet de bien maintenir les liens entre nous.
Mmh.
Et bon, ce sont des échanges, justement, qu'on a des ouvrages en double, en triple. On regarde si on les donne en priorité à Lausanne, à Limoges, qui est en train de se constituer.
Ouais. Et puis dis-moi, alors comme nous on fait de la radio, eh bien, y a-t-il aussi à Marseille quelques petites pépites de documents radiophoniques que tu aurais en tête?
Ouais, comme ça, je pense qu'il doit y avoir des... On a enregistré toutes les conférences, les causeries qui ont eu lieu sur place. Mais bon, comme ça, là, les archives audio, je ne les connais pas trop.
J'imagine. C'est un petit peu à brûle pour point, j'admets.
Ouais.
Mais dis-moi, pour en terminer, et puis Camille aura encore une question derrière, comment ça se passe? Vous avez quand même des permanences où les gens peuvent venir à tout moment, ou un petit peu comme à Lausanne, c'est mieux d'appeler, on s'arrange, on trouve des moments où on peut se voir. Comment ça se passe?
Oui, alors il y a des permanences actuellement du lundi au jeudi. Donc tous les après-midi, en principe, de 15h à 18h30, il y a quelqu'un. Mais après, effectivement, on peut venir sur rendez-vous. Il y a des copains qui habitent, qui sont retraités et qui ont du temps et qui peuvent venir même le samedi et le dimanche.
Merci beaucoup. Moi, j'ai une dernière petite question peut-être, très peut-être anecdotique, mais est-ce que vous avez dans votre collection, dans toutes les choses que vous avez récoltées, est-ce que vous avez une publication ou un ouvrage ou juste quelque chose que vous préférez aux autres ou qui vous attendrit davantage?
Oui, alors il y a quelque chose quand même. On a récupéré les archives d'Alexandre Marius Jacob quand il était au bagne. Une petite boîte, c'est deux. Une petite boîte et un couteau. Et également, on a récupéré un drapeau noir immense qui est brodé à la main. Et il y a le nom du groupe anarchiste, un groupe anarchiste aux alentours de 1900 sur Marseille, d'un quartier. Donc ça veut dire qu'il y avait plusieurs groupes anarchistes sur la ville. Donc c'est marqué groupe anarchiste Marseille Saint-Henri, 1901. Et... Et il est avec une hampe. Ça ressemble un peu au drapeau qu'on voit dans les défilés militaires, parce qu'il a une grande hampe et puis une petite pointe au bout. Et bon, là, on l'a exposé à l'entrée, c'est pas mal ça. Et puis bon, il est pas mangé par les mythes, c'est bien.
C'est bien. Dis-moi, on arrive au terme de l'entretien, mais si il fallait que tu te détermines en tant qu'anarchiste, qu'est-ce que l'anarchie pour toi en quelques mots? Qu'est-ce que ce serait? Quels seraient ces quelques mots clés que tu jetterais comme ça à la volée?
Eh ben, c'est l'autogestion, c'est un système qui va de bas en haut. C'est le fédéralisme, donc on se fédère dans sa rue, dans sa commune, et puis on monte nation. Mais tout le contraire de ce qui se fait actuellement, c'est on est contre la hiérarchie. Et puis bon, après, je sais qu'il y a plusieurs tendances dans l'anarchisme, mais moi, je pense qu'il y a de plus en plus d'anarchisme non violent, quoi. Donc, c'est essayer de résoudre les conflits, pas forcément par la violence. Mais bon, ça c'est mon opinion tout à fait personnelle, parce que je sais qu'il y a pas mal d'anarchistes insurrectionnalistes et je respecte leurs idées. D'ailleurs, au CIRA, l'intérêt, c'est qu'il y a plein de tendances, de façons de voir l'anarchisme, et c'est de ne pas faire d'exclusion et de garder les documents de toutes ces tendances.
Mmh. Et pour en finir complètement, selon toi, est-ce que les idées anarchistes, pourrait-on dire quelque part la philosophie, l'éthique anarchiste, a-t-elle le vent en poupe actuellement dans ce monde trouble qui nous assiège? Comment tu vois cette notion évoluer ou involuer?
Je pense qu'elle est vue de manière positive. Après, il y a des expériences qui se disent pas forcément anarchistes, mais je pense aux ZAD, là, qui sont quand même des expériences autogestionnaires où les gens se prennent en main. Alors, bien sûr, ça touche peut-être pas des milliers, enfin, si, peut-être ça touche quand même, peut-être petit à petit, des centaines, voire des milliers de personnes. Et ça serait un peu des expériences libertaires par l'exemple. Qui peuvent attirer la sympathie des gens. Après, il faut que les gens, entre guillemets, ils aient envie de se prendre en charge. Ça, c'est peut-être ce qui est le moins gagné pour l'instant, quoi.
D'accord. Et puis, vraiment pour en finir, cette fois-ci, désolé, mais il y aurait tellement de questions à te poser encore, mais bon, ce sera peut-être pour une autre fois, j'espère. Mais selon toi, qu'est-ce qui fait que ces idées anarchistes sont encore victimes de ces préjugés et qu'elles ont du mal à se frayer un chemin parmi les fake news, la post-vérité, enfin toutes ces choses-là?
Ben, c'est toujours pareil. Les gens, ils disent, quand on dit vous êtes anarchiste, ah ben c'est bien, mais c'est du... À chaque fois, on entend « c'est de l'utopie, c'est pas possible ». Mais si, c'est possible, puisqu'il y a eu des expériences historiques, et au CIRA, on le sait, parce qu'on a un tas de documents là-dessus. Bon, en Espagne, entre 36 et 37, dans l'Ukraine de Macno, il y a eu des expériences de conseils ouvriers en Hongrie, dans plusieurs pays, donc on sait que c'est possible. Après... le pouvoir répressif est tellement fort que, bon, c'est des expériences qui n'ont pas duré longtemps. Mais quand on les donne en exemple, les gens qui lisent ça voient bien que c'est tout à fait possible.
Mmh. Donc, en fait, il faut arriver à en reproduire, à en recréer au maximum pour que les personnes puissent s'apercevoir de la viabilité de ces expériences-là et de ce mode de fonctionnement.
Tout à fait, parce que, bon, la révolution, le grand soir, c'est peut-être... On n'est peut-être pas dans un contexte qui va le favoriser, mais toutes les expériences, toutes les petites expériences libertaires dans tous les sens, et il faut les multiplier, que ce soit aussi dans l'éducation. On a de plus en plus d'écoles qui se montrent sous des principes libertaires. Il y a aussi des coopératives d'échange, de consommation, de producteurs. Oui, oui. Donc tout ça est vu de manière positive. Des gens qui ne sont pas spécialement anarchistes y participent. Mmh. Et puis, je voulais rajouter une chose, là, c'est... Bon, après, ça sera peut-être à mettre ailleurs. Ce qu'il y a... Le film qui est passé sur Arte, là, l'histoire de l'anarchisme, par Tancred Ramonet, auquel a participé Gaëtan Aubin-Fredonia, a été vu par des milliers de personnes, à la fois sur la télé et sur Internet, mais je crois que le nombre est ahurissant. Et on a beaucoup de retours positifs depuis ce film, quoi. C'est-à-dire des gens qui avaient une vague idée de l'anarchisme se sont dit « Ah ouais, d'accord, ils ont fait ça, c'est pas si mal que ça. » Et puis les pauvres, tout le monde leur a tapé dessus, c'est pas bien. Et notamment, le nombre de martyrs, c'est un peu ce qu'on pourrait... Bon, s'il y avait un reproche à faire au film, c'est qu'il est... c'est qu'il est, il y a beaucoup de martyrs, beaucoup de gens qui sont fusillés, garrottés, mais ça a touché les gens. Et le grand public, même, on a eu des réflexions du genre, on nous a caché ça, quoi. Pourquoi on nous l'a jamais dit ?
Mmh, effectivement. Écoute, je te remercie énormément, Philippe. Nous, on doit malheureusement continuer notre programme de soir avec les prochains invités. Mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé du volet, par exemple, de la répression. On n'a pas parlé de Sacco e Vanzetti, pour lesquels on voulait... De toute façon, nous, on dédie ces émissions de notre petite tournée radiophonique à l'aune des 90 ans, des 90 ans,
oui,
pardon, pour toi,
oui,
de leur exécution. Alors, effectivement, j'espère que, enfin, si de ton côté c'est OK, on en reparlera une prochaine fois.
Oui, s'il faut un peu de temps, ou là en 5 minutes, on peut faire un résumé. Je sais pas, après, ça dépend de vous. Quoi.
Écoute, si toi tu auras envie de nous dire quelques mots de Sacco e Vanzetti, très très volontiers.
Oui, alors bon, ben, effectivement, c'est les 90 ou les 90 ans de l'exécution de Sacco e Vanzetti. Alors, c'était le 23 août 1927. Donc, cette affaire, elle a commencé en avril 1920. Il y a un braquage dans South Benfrey, une ville du Massachusetts. Et donc, ce sont des employés qui avaient la paye d'ouvriers qui se font braquer. Et il y a des morts. Et aussitôt, les soupçons se tournent vers les anarchistes. Pourquoi ? Parce que depuis 1900, la fin de la guerre, là, il y avait une agitation ouvrière assez importante aux États-Unis. Donc l'anarchisme était arrivé aux États-Unis. Il y a un anarchisme américain, mais il y avait aussi un anarchisme lié aux immigrés. Et là, dans ce cas-là, ce sont deux Italiens. Donc on trouve pas les coupables. Alors on arrête deux Italiens, Nicolas Sacco et Bartolomeo Vanzetti. Et ce sont les coupables idéales, ou idéaux,
je ne sais pas non plus.
Ils sont immigrés, italiens, anarchistes, et en plus, ils sont d'une tendance anarchiste où ils prônent l'action directe, la violence. Hein, ce sont des disciples de Luigi Galeani. Et donc, Luigi Galeani, c'était un anarchiste dur. Hein, donc, à cette époque-là, il y avait quand même des attentats. Un patron qui emmerdait ses ouvriers, il se faisait descendre. Donc Sacco e Vanzetti, ils étaient peut-être coupables d'autre chose, mais en tout cas, il n'y a aucune preuve pour ce braquage. Lors des procès, on n'a pu sortir aucune preuve contre eux. Donc aussitôt, il y a une campagne de solidarité qui apparaît, d'abord aux États-Unis et après dans le monde entier. Et curieusement, même le Parti communiste s'y met à soutenir deux anarchistes parce que, effectivement, c'était peut-être la façon de lutter contre, de dénoncer ce qui se passait aux États-Unis. Donc des manifs gigantesques partout avec beaucoup de violence à Paris, notamment Mépicrève a envoyé une bombe à l'ambassade des États-Unis. Les manifestations sont réprimées dans la violence. Mais bon, toutes ces manifestations ne font pas grand-chose. Et Sacco e Vanzetti passe attendre de 1927, c'est-à-dire de 1921, ils avaient été condamnés à mort. Ils passent 6 ans dans les couloirs de la mort et ils passent à la chaise électrique. Les réactions dans le monde sont énormes. On voit là l'humanité de l'époque électrocutée, écrit en gros, le libertaire assassiné, tous à l'ambassade. Ça s'est passé en France, mais dans plein de pays du monde, à Buenos Aires, partout, il y a eu des réactions. Alors que même Mussolini avait demandé la grâce.
Carrément.
Ouais, parce que c'était les Italiens, parce que c'était les anarchistes. Et ils ont été exécutés alors qu'ils étaient complètement innocents. Et que en 1925, un bandit, entre guillemets, qui s'appelait Celestino Medeiros, avait dit au juge, moi j'ai fait partie du braquage, de ceux qui ont fait le braquage, et Sacco e Vanzetti sont innocents, mais bon, son témoignage a été occulté, il a été d'ailleurs exécuté, je crois, à peu près en même temps que Sacco e Vanzetti. D'accord. Donc passe le temps, en 1971, d'abord il y a un film de Giuliano Montaldo, qui s'appelle Sacco e Vanzetti, et puis il est surtout connu pour la bande-son, parce que c'est John Baez qui l'a interprété, Here's to You, Nicolas Barthes, etc. Chanson reprise par Georges Moustaki. Et en 77, Sacco e Vanzetti sont réhabilités par le gouverneur du Massachusetts, Alors, il y a une phrase qui dit à peu près qu'ils doivent être lavés de tout ce qui, les avanies qu'ils ont subies. Et voilà. Donc, actuellement, il n'y a pas beaucoup de littérature sur eux. Là, j'ai vérifié. Il y a un petit bouquin de Ronald Craig et Franck Thiriot aux éditions du Monde Libertaire de 2014. Et une BD qui évoque Sacco Vanzetti, qui s'appelle American Tragedy, par Florent Calvez chez Delcourt. Mais bon, Ronald Craig, avec qui on est en contact, nous a dit qu'un livre était prévu pour cette année. Quoi.
Oh, voilà. Génial. Ah, génial. Donc ça, on se tiendra bien informé. Ronald Craig, un livre sur Sacco Vanzetti.
Ah oui, qui devrait paraître, je pense, l'atelier de création libertaire de Lyon.
Ok. Dis-moi, vous avez, vous, au CIRA à Marseille, justement, quelques petits documents concernant l'affaire Sacco Vanzetti?
Ah ben alors ça va être les journaux de l'époque, hein, donc qui est essentiellement le Libertaire, qui était le grand journal anarchiste de l'époque, mais il y en a d'autres.
Hein. Ouais, très bien.
Et puis peut-être on a peut-être les disques de John Baez, une version du film aussi.
Okay. Bon bah écoute, je te remercie beaucoup pour ce rappel. Donc on en est effectivement aux 90 ans, 90 ans. Et voilà, nous on l'avait annoncé, on n'oubliera pas. On tient à ce que cette chose soit dite. Et du coup, nous on voulait dédier ces émissions. Et du coup, je te remercie beaucoup d'avoir éclairé la lanterne de personnes curieuses ou de personnes qui croiseront ce podcast plus loin.
D'accord.
Écoute,
merci à la radio de nous avoir donné la parole.
Nous, on est vraiment ravis de t'avoir reçu, Philippe. Écoute, on va juste rappeler encore le site internet, donc www.cira.marseille.free.fr.
Oui, tout à fait.
Le courriel cira.marseille@gmail.com.
Ouais.
Et l'adresse, c'est le 50 rue Consola à Marseille.
Ouais, à deux pas des réformés en haut de la Canebière.
Ben, écoute, un jour on essaiera de venir visiter, j'espère.
Ouais, on attend votre visite.
Super, je te remercie encore beaucoup.
Allez.
À bientôt.
À bientôt. Ciao.
Bon après-midi. Ciao.
Toi aussi.